Heureux d'être avec vous de nouveau ce matin. On avait une petite interruption là de 15 jours de nos rassemblements, et ça fait du bien de se revoir. Et moi aussi, je vous souhaite à chacun, à chacune, une très bonne année. J'ai médité ces dernières semaines sur le livre de Nombres. Ça faisait partie de mes lectures quotidiennes. Et le message de ce matin va s'appuyer sur des passages tirés donc des premiers 7 chapitres de ce livre. Et on est un peu fou là en début de cette année. Hein. Pour plusieurs raisons, il m'a semblé bon de partir de là pour la première prédication de 2015. D'abord parce que on voit le peuple d'Israël qui est lui-même à l'aube d'une nouvelle étape. Ils vont bientôt se mettre en route vers le pays promis. Et nous aussi, on est comme à une étape avant de nous engager plus en avant dans 2015. La deuxième raison, c'est à cause du principe que j'ai souvent vérifié dans ma propre vie. Qu'on pourrait dire comme ça, les réveils spirituels ou la vie spirituelle, elle coule à flot dans nos vies. Ça vient et ça demeure en nous lorsque nous voyons la majesté de Dieu dans sa sainteté. Quand cette vision-là, elle est comme rafraîchie en nous. Et quand alors nous nous voyons nous-mêmes comme nous sommes réellement, des grains de poussière, désobéissant en plus. Et au lieu d'être menaçante, cette vision des choses procure la vie. Et est-ce que c'est pas ça qu'on désire? Est-ce que c'est pas ça que vous désirez? J'espère que c'est ça que vous désirez pour 2015. Un sens plus aiguisé de la vie du Seigneur coulant dans nos veines. Plus de joie dans le service. Une sagesse renouvelée pour conduire nos vies d'une manière qui honore Dieu. Une proximité encore plus grande avec le Seigneur. Et nous devons nous tenir alors en tension entre ces deux réalités. D'un côté, Dieu est saint, impeccablement pur, séparé du péché, activement en train de rechercher, de travailler à sa gloire, une gloire qu'il ne partage avec personne. Ça, c'est notre Dieu, c'est le Dieu qui est présent avec nous ce matin, c'est le Dieu qu'on adore, c'est le Dieu qui est présenté dans la Bible, qu'on est en train d'ouvrir là, devant nous ce matin. Et de l'autre côté, Dieu est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Dieu est un Dieu qui veut bénir, un Dieu qui veut être proche aussi de nous. Et c'est aussi le Dieu qui nous est décrit dans la parole que nous lisons ce matin. Alors on va lire dans quelques instants des passages dans le livre de Nombres et réfléchir à ces deux réalités-là de notre Dieu, du Dieu que nous servons. Et je voudrais vous donner encore deux versets en bonus pour une raison supplémentaire encore d'écouter le message de ce matin. Le premier dans Romains, chapitre 15, le verset 4, où Paul, l'apôtre, nous dit ceci. « Tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. » Puis un autre verset encore dans 1 Corinthiens chapitre 10 qui parle justement de divers épisodes survenus au peuple de Dieu dans l'ancienne alliance, alors que le peuple était en route vers le pays promis. En fait, des épisodes pas très glorieux, faut dire, pour le peuple de Dieu. Et voici ce que dit l'apôtre Paul. Tout cela, leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir. Nous sur qui la fin des temps est arrivée. Alors laissons-nous instruire par toutes ces choses. Et avant d'aller plus en avant, j'aimerais encore prier courtement, demander à Dieu, et prier aussi avec moi, prier pour moi, que Dieu donc nous donne des oreilles pour entendre, me donne de parler en son nom maintenant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons nous approcher de toi et nous sommes conscients du fait que tu es un grand Dieu, un Dieu saint, un Dieu majestueux, que nous sommes peu de choses devant toi. Et en même temps, nous souvenir que tu es un Dieu bon, patient, qui veut être proche, qui veut bénir. Seigneur, c'est ça qui nous donne cette confiance de te prier maintenant, que tu ouvres nos oreilles, que tu délies ma langue, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs pour écouter cette parole de ta part. Seigneur, en ce début d'année, on est comme un col, pour reprendre un peu l'image aussi de Paul. Et peut-être les uns les autres, on a traversé comme la vallée de l'ombre de la mort en 2014. Peut-être que ce qu'on entrevoit de 2015, c'est un peu terrifiant aussi. Seigneur, on veut avoir de nouveau cette vision fraîche que tu es un Dieu souverain, Dieu tout-puissant, qui règne au-dessus de tout. Personne n'est au-dessus de toi. Et c'est toi qui nous conduis. Tu es au milieu de nous. Et Seigneur, avant de aussi entamer 2015, nous voulons nous souvenir que tes bénédictions pour nous, ta bienveillance envers nous, elle ne date pas d'hier. En fait, quand nous étions juste une petite grappe de cellules encore dans le ventre de notre mère, des fœtus dans le ventre de nos mamans, toi, tu savais déjà tous les jours de notre existence, avant qu'aucun d'eux n'existe. En fait, ta parole nous dit qu'avant même la fondation du monde, tu avais un plan pour nous, un plan bienveillant. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons nous approcher de toi maintenant. Parle-nous et donne-nous des oreilles pour écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est présent au milieu de nous, là, ici, maintenant. Dieu est saint. Alors, comment ça va impacter nos vies en 2015? Et Dieu est proche. Alors, comment ça va orienter nos vies en 2015? Au début du livre des Nombres, j'espère que vous avez un peu voilà, ces repères-là dans vos têtes de l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, donc, est sauvé de l'Égypte. Il a traversé la mer Rouge. Il est maintenant dans le désert du Sinaï. Ça fait à peu près un an qu'il y est. Et on est au début de la deuxième année dans le désert. Et le Seigneur ordonne que chaque homme de chaque tribu d'Israël soit recensé. Et c'est le compte-rendu de ce recensement qui donne le nom au livre de Nombres, parce qu'on voit justement le compte-rendu de pour chaque tribu, combien il y a d'hommes. Voilà, vous voyez tous les critères de cela dans les premiers chapitres. Et les noms individuels de 603 550 hommes de 20 ans et au-delà sont inscrits sur des listes de noms. Voilà, c'est ce nombre-là. Et donc, on voit au début du livre des Nombres, Dieu organiser son peuple, même nominativement. Toi, tu vas faire ceci, telle tribu va faire cela, et il organise son camp. Au début du livre de Nombres, nous avons un aperçu d'un peuple ordonné, en ordre de bataille, prêt à se mettre en route, justement, vers le pays promis. Je crois que c'est la même chose. Dieu organise son peuple encore aujourd'hui, en 2015, son église. Et localement même, il est intéressé par ce qui se passe à l'EPEC, à l'église de Cavaillon. Et il me semble bien que nous sommes encore dans un processus comme ça où Dieu est en train d'organiser l'EPEC. Ici, au début du livre des Nombres, les Israélites se préparent sous l'ordre de Dieu à voyager vers la terre promise. Il s'en est fallu de peu que tout le projet n'avorte. Du fait de l'idolâtrie du peuple de Dieu. À peine sauvé, et devant le spectacle même du Sinaï, cette montagne dans le désert, fumant de la présence de Dieu en haut de la montagne. Bien que devant ce spectacle-là, le peuple se fabrique un veau d'or et se fait son propre Dieu, de métal fondu, fabriqué avec ses mains, alors qu'ils viennent d'entendre la voix du vrai Dieu retentir à leurs oreilles. Et donc, on voit ce peuple-là maintenant qui est en train d'être préparé, continuer d'être préparé par le Seigneur. Et je voudrais faire une lecture donc dans Nombres, chapitre 1, versets 47 à 54. On voit tous les différentes tribus, donc Juda, Issachar, Aser, Nephtali, sont disposées autour du camp. Et il y a une tribu particulière, la tribu des Lévites. Donc chapitre 1, versets 47 à 54, nous lisons. « Les Lévites, selon la tribu de leurs ancêtres, ne furent pas inclus dans le dénombrement. L'Éternel avait transmis ses instructions à Moïse. Tu ne feras pas le dénombrement de la tribu de Lévi et tu ne compteras pas ses membres au milieu des Israélites. Confie aux Lévites la responsabilité du tabernacle, du témoignage, de tous ses ustensiles et de tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Si quelqu'un d'autre s'en approche, il sera puni de mort. Les Israélites camperont chacun dans son camp, chacun près de son étendard, selon son corps d'armée. Les Lévites, quant à eux, camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate pas contre l'assemblée des Israélites. Les Lévites auront la responsabilité du tabernacle du témoignage. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ce qu'ils firent. Donc, je voudrais vous essayer que vous ayez un peu cette image-là en tête. Imaginez un camp, peut-être il y a 603 000 hommes de 20 ans et au-delà, c'est juste les hommes, ça, c'est-à-dire il y a des femmes, il y a des enfants, peut-être 1 million, 2 millions de personnes qui sont en train de vivre sous des tentes, dans le désert. Vous avez l'image en tête? Et ce camp-là, il n'est pas désordonné, il y a les tribus qui sont réparties. Et si vous lisez plus attentivement dans le livre des Nombres, il y a 3 tribus vers le nord, 3 tribus vers le sud, 3 tribus vers l'est, 3 tribus vers l'ouest. Donc tout autour, vers l'extérieur du camp, il y a les tribus qui sont organisées, chacun par clan, par étendard d'armée. Ils ne peuvent pas être trop proches de ce qui est en plein centre du camp, c'est-à-dire le tabernacle, la tente de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Dieu décide de venir habiter en plein milieu. Et en fait, si vous comparez avec Exode, il y a eu un grand mouvement, parce qu'au départ, en Exode, il est sur la montagne tout en haut, un peu loin, un peu effrayant. Et puis, après le veau d'or, le tabernacle est construit à l'extérieur du camp, parce que ce serait trop dangereux d'avoir un Dieu saint qui demeure au milieu du peuple. Et maintenant, Dieu organise pour que le tabernacle vienne en plein centre du camp des Israélites, de toutes les tribus rassemblées. Et pour faire un cordon, un tampon, si vous voulez, entre le Dieu saint qui a sa demeure au milieu et toutes les autres habitations des Israélites autour, il y a les Lévites. Les Lévites, ils sont comme des démineurs. Je ne sais pas si vous avez des films d'action en tête, Die Hard, je ne sais pas quoi, hein, une journée pour mourir, où vous avez les démineurs harnachés et ils doivent transporter de la TNT, une charge d'explosifs qui est instable, qui est prêt à exploser pour très peu de choses. Et ils doivent transporter ça au milieu d'une grande foule. C'est un peu la situation des Lévites. Ils doivent faire en sorte que personne ne s'approche de trop près du tabernacle, ne le touche, pour ne pas risquer de mourir, parce que Dieu est saint et il ne tolère pas le péché. Plus encore que ça, même pas tous les Lévites pouvaient approcher du tabernacle de n'importe quelle manière. Nous lisons dans Nombre, chapitre 3, versets 5 à 7, « L'Éternel dit à Moïse, « Fais approcher la tribu de Lévi. » Et mets-la à la disposition du prêtre Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils assumeront sa tâche et celle de toute l'assemblée devant la tente de la rencontre en effectuant le service du tabernacle. Ils auront la responsabilité de tous les ustensiles de la tente de la rencontre. Ils assumeront la tâche des Israélites en effectuant le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront donnés comme des dons de la part des Israélites. Mais c'est Aaron et ses fils que tu établiras responsable de leur fonction de prêtre. Si quelqu'un d'autre y prend part, de nouveau, la sentence, elle est terrible. Il sera puni de mort. Comme c'est étrange, n'est-ce pas? Un Dieu saint qui accepte de vivre au milieu d'humains pécheurs. Mais pas à n'importe quelle condition. Dieu ne baisse pas sa sainteté pour s'accommoder ou ressembler à des êtres humains pécheurs. En fait, c'est exactement l'inverse. Le peuple sera saint parce que Dieu est saint. Dieu donne donc les conditions qui manifestent le caractère très sacré de Dieu. Et c'est tout le système des sacrifices, c'est toute l'organisation de la vie du peuple autour de cette exigence. Il n'y a qu'à lire le livre des Lévitiques et sans cesse les lois qui sont données au peuple de Dieu pour sa vie tournent autour de cette exigence. Vous serez saints parce que moi, Dieu, je suis saint. Et parmi les tribus d'Israël, donc se trouve une tribu particulière, la tribu des Lévites. Ils doivent marquer donc cette limite. Ils doivent agir dans le tabernacle. Et même là, ils n'ont pas toutes les prérogatives. Et pour encore renforcer parmi nous cette idée-là et cette vision-là de la, du caractère saint de Dieu, séparé de tout mal, séparé du péché, qui se consacre à une bonne chose, c'est-à-dire à rechercher et à manifester sa propre gloire et son honneur. Regardons encore un petit passage, ce qui se passe pour le montage et le démontage du tabernacle. Rappelez-vous, le peuple n'est pas censé demeurer pour toujours dans le désert, au mont Sinaï. Il doit aller faire la route jusqu'à la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Il doit aller jusqu'à une autre montagne que celle du Sinaï. Il doit aller jusqu'à la montagne de Sion. Il va falloir se déplacer. Et c'est Dieu lui-même qui conduit son peuple vers cette terre. Si Dieu conduit, c'est qu'il est là présent. Et on voit les Kéhatites. D'abord, il y a, voilà, dans la tribu de Lévi, il y a trois clans qui nous sont décrits. Il y en a qui doivent s'occuper de tout ce qui concerne la structure du tabernacle, les poteaux, les éléments solides. C'est le clan de Merari, d'accord, des descendants de Lévi. Il y en a qui doivent s'occuper des rideaux et de tout le voilage, donc qui fait le pourtour et qui recouvre le tabernacle. Ça, c'est les fils de Gershon, donc un des descendants aussi de Lévi. Et puis, il y a les Kéhatites. Les Kéhatites, quant à eux, qui sont aussi donc un clan de Lévi, reçoivent l'ordre de s'occuper de ce qui est le plus dangereux, s'occuper de tout ce qui concerne ce qui est très sacré, c'est-à-dire le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, et tous les autels et tous les autres objets liés au culte dans le tabernacle. Et lisez avec moi dans le chapitre 4, versets 4 à 8. Voici les fonctions des descendants de Kéhat dans la tente de la rencontre. Ils seront chargés du lieu très saint. Au moment du départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et en couvriront l'arche du témoignage. Donc c'est même pas les Kéhatites qui peuvent emballer tous les objets sacrés, c'est Aaron et ses fils, les grands prêtres. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement fait d'étoffe bleue. Puis ils placeront les barres du coffre. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains consacrés et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les gobelets pour les offrandes de produits liquides. Quant au pain, il restera sur la table. Ils étendront sur ces éléments un drap cramoisi qu'ils envelopperont dans une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de la table. Etc, etc. Je saute jusqu'au verset 15. Ils sont en train d'emballer tous les objets très sacrés, là où il y avait les sacrifices qui étaient offerts à Dieu, les sacrifices pour demander pardon pour le péché du peuple. Verset 15. Une fois qu'Aaron et ses fils auront fini de recouvrir le sanctuaire et tous ses ustensiles, les descendants de Kéhat viendront pour les porter au moment du départ du camp. Cependant, ils ne toucheront pas les choses saintes, sinon ils mourraient. Donc tous les Lévites qu'ils sont, ils sont aussi sous cette menace. Telle est la charge attribuée aux descendants de Kéhat concernant la tente de la rencontre. Et encore un petit peu plus loin, verset 17, il y a cet avertissement. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « N'exposez pas la branche des clans des Kéhatites à être exclue du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et ne meurent pas quand ils s'approcheront du lieu très saint. » Aaron et ses fils viendront et placeront chacun d'eux dans son service et dans sa charge. Ils n'entreront pas pour voir, ne serait-ce qu'un instant, envelopper les choses saintes, sinon ils mourraient. Donc là, on est en train de se mettre à la place d'un Israélite moyen, d'accord ? On s'est dit, bah déjà, moi je ne suis pas de la tribu de Lévi, et approcher de Dieu, c'est dangereux. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait simplement. Il ne faut pas prendre Dieu à la légère. Et même si on est un Lévite, et même si on est dans la tribu des Kéhatites, dans le clan des Kéhatites, en train de devoir prendre en charge les choses les plus sacrées, on est encore en train de trembler. Et Dieu dit, ne faites pas cette mauvaise blague aux Kéhatites, de les faire disparaître tous d'un coup, en les laissant s'approcher de ces choses très saintes, de la présence très sainte de Dieu, sans qu'ils en aient reçu l'ordre de la part d'Aaron. Je ne sais pas si vous avez déjà... C'est toute proportion gardée, bien sûr, mais si vous êtes déjà baladé dans les champs et vous avez déjà fait cette mauvaise blague, hein, vous êtes près d'une barrière de fil électrifié qui garde le champ, puis vous dites à quelqu'un, viens, je vais te montrer quelque chose. Et au moment où il s'approche, vous lui prenez la main et en même temps, vous prenez la clôture électrifiée. Puis boum, ça fait une décharge un peu à tout le monde, quoi. Mais là, il ne faut pas faire ça. Le Seigneur, il avertit, il ne faut pas faire ça avec les Kehathites. Allez, on va rigoler, on ne va pas les avertir. Approchez-vous un peu du tabernacle. Et puis, en un instant, tout l'attribut des Kehathites aurait été décimé devant la sainteté de Dieu qui ne supporte pas les pécheurs. En 2015, Dieu est toujours concerné par la pureté de son peuple. En 2015, Dieu est toujours concerné par la sainteté de l'Église. En 2015, Dieu est toujours en train de vivre au milieu de son peuple, de l'Église de Cavaillon. C'est ce qu'on vient de fêter à Noël. Jésus, Dieu en Jésus-Christ est venu tabernacler. Il est venu poser sa tente au milieu des humains. En Apocalypse, au chapitre 1, nous voyons le Jésus ressuscité qui est debout au milieu des sept chandeliers qui représentent son Église. Il est au milieu, la même configuration que pour le peuple d'Israël dans le Sinaï. Et pour nous, en 2015, le péché, c'est vraiment quelque chose avec lequel il ne faut pas jouer. Dieu n'aime jamais le péché. Il n'est jamais tenté de trouver ça cool ou pas si grave. Jamais tenté de ne pas faire tout un plat du péché. Jamais. Et même le peuple choisi, sauvé miraculeusement par Dieu, doit trembler devant la menace que représente son péché. S'il n'y avait Moïse et les Lévites, la juste conséquence du péché serait sans cesse en train d'être constatée. Des gens qui meurent. Mais Moïse intercède, les Lévites intercèdent. Vous doutez encore de ça? Regardez Ananias et Saphira au chapitre 5 des livres des Actes. Dieu continue, même dans le temps actuel de l'Église, à la sainteté de son Église. On ne s'approche pas de Dieu en le méprisant. On ne s'approche pas de Dieu quand on ne respecte pas sa sainteté, sa pureté impeccable, sa grandeur et sa majesté. Waouh. Alors comment est-ce que nous devons prendre cela? Comment est-ce que nous devons réfléchir, nous, maintenant, à cela? En fait, je crois qu'il y a deux choses. On doit se poser la question, parce qu'on est au début d'une nouvelle étape. On va être en route tout au long de 2015 vers le pays promis. C'est à ça que Dieu nous appelle, en tout cas. C'est vers là que Dieu veut nous conduire. Et Dieu demeure au milieu de nous. Donc il faut qu'on fasse attention. Comment la sainteté de Dieu, la conscience de la sainteté de Dieu va impacter nos priorités en 2015? Vous êtes sans doute en train de réfléchir, de planifier. Vous avez été forcé parce que, et c'est une bonne chose, de prendre un temps de pause, d'envisager qu'est-ce qui va se passer maintenant, 2015. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Faites-le, c'est une bonne chose de faire ça, de faire des pauses régulièrement. Comment la conscience de la sainteté de Dieu va impacter mes décisions en 2015, mes choix, mes plans pour cette année? Comment est-ce que ça va impacter mes priorités en termes de loisirs? Le temps que je vais passer dans mes semaines à faire ceci ou cela. Comment est-ce que ça va impacter peut-être mes samedis soirs pour que je ne m'endorme pas trop tard, pour être en forme le dimanche matin, pour venir prêt à rencontrer ce Dieu saint, à l'écouter, à me laisser conduire par lui, transformer par lui. Comment est-ce que je vais passer du temps à préparer mon service pour le bien de tous dans l'assemblée, les présidences, et je m'inclus, les messages, l'enseignement des enfants, le planning, la préparation d'un plat pour une agape, le temps que nous allons consacrer les uns pour les autres, même en dehors de nos rassemblements. Est-ce qu'il y aura une place pour ça, pour le corps de Christ, dans le reste de la semaine? Quelle place y aura pour la prière, du temps consacré à prier le Dieu saint? Comment la sainteté de Dieu va impacter nos couples? Comment la conscience de la sainteté de Dieu va impacter nos relations avec les personnes du sexe opposé qui peut-être nous attirent, ou les personnes du même sexe, si c'est une lutte que certains ou certaines expérimentent? Comment est-ce qu'on va gérer cela pendant cette année 2015, avec nos collègues du travail peut-être, ou dans notre quartier, avec les personnes avec qui on est en contact? Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient être un obstacle pour nous à grandir dans la sainteté avec Dieu? Comment la conscience de la sainteté de Dieu va influencer notre sanctification personnelle cette année? Comment est-ce qu'on va désirer ressembler de plus en plus à ce Dieu saint? Ça, c'est une première chose qu'on doit faire au début de cette année 2015. Et peut-être vous êtes comme moi, quand j'étais en train de réfléchir à tout ça, vous êtes en train peut-être d'être intimidé, ce serait le minimum, ou d'être un peu repoussé par ce Dieu qui est tellement inaccessible. Et j'aimerais maintenant vous conduire à regarder une deuxième chose. Vous amener à voir qu'en fait, quand on a une réelle conscience de la sainteté de Dieu, quand on fait cela, en fait, ça va conduire à la vie. Parce qu'il se passe une chose étrange. Quand on considère la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu, on se voit mieux tel que nous, nous sommes réellement. Et ça, c'est salutaire. C'est salutaire, parce que sinon, on s'imagine tel qu'on est. Et on ne se voit pas tel qu'on est réellement. Et si on s'imagine toujours mieux, ou plus beau, ou plus fort que ce qu'on est en réalité. Et en fait, quand on considère la grandeur, la magnificence de Dieu, la majesté, la sainteté de Dieu, soit ça nous repousse, soit on va se cacher derrière l'arbre de la religion, même une religion évangélique, et c'est ce fameux arbre qui cache la forêt de tous les faux dieux, toutes les fausses sécurités qu'on pourrait avoir en 2015 encore. Ou alors, on désire s'approcher de Dieu, on désire recevoir la sainteté de Dieu, participer à cette même sainteté. Et alors, on prend conscience de notre besoin de Dieu. Et ça, c'est salutaire. Parce qu'alors, on peut se tourner vers Dieu en demandant qu'il comble nos besoins. Et en fait, c'est pour cela que Dieu nous appelle. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, nous lisons ceci. Vous, il s'adresse à des chrétiens, il s'adresse à l'Église. Dit, vous, au contraire de ceux qui ne sont pas dans l'Église. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. On n'est pas appelé à être un peuple saint pour trembler seulement. On est appelé à être un peuple saint pour trembler, oui, un peu quand même, devant la sainteté de Dieu, mais aussi pour proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Le Seigneur qui est saint nous appelle. Le Seigneur qui est saint veut aussi la proximité avec nous. Il veut aussi nous bénir. Dans tous ces versets qu'on vient de lire, on pourrait se sentir éloigné de ce Dieu trop dangereux. Ou alors ça peut produire en nous le désir de nous approcher de lui. Et je voudrais vous donner trois indices pour terminer, où je vois que Dieu ne veut pas que nous restions là, loin de lui et en train de trembler devant sa sainteté. D'abord, le premier indice, c'est qu'il décide malgré tout de demeurer au milieu de son peuple, pas à l'écart. Et on le voit ici dans l'ombre, je l'ai rappelé, ça a été le cas en Jésus-Christ qui est venu habiter au milieu de nous. Et nous voyons dans Apocalypse 1 la réalité spirituelle de ce que nous sommes en train de vivre en cet instant et tout le long de la semaine. Dieu, en Jésus-Christ, le Jésus-Christ ressuscité, est vivant au milieu de son Église. Dieu ne veut pas être sur un côté de notre vie. Dieu ne veut pas être à l'écart de notre vie. Ça, c'est une bonne nouvelle pour 2015. Et comment donc on va construire 2015 en gardant Dieu au centre de notre vie? Dieu ne veut pas être sur un côté de notre vie comme s'il fallait le contenter un minimum pour qu'il ne se fâche pas trop avec nous. Et en même temps, c'est confortable s'il est un peu à l'écart. Comme ça, moi, mon ego, peut être au centre de l'existence. Dieu veut être le centre de notre vie. Dieu veut être le centre de l'Église. Et ma perception des choses, c'est que Dieu est en train d'organiser l'Église ici, particulièrement localement et à l'EPEC, de telle sorte à être plus central. Et en tout cas, moi, J'encourage le conseil, j'espère qu'ensemble, le conseil, on veut s'encourager les uns les autres à mettre toujours Dieu, sa parole, son esprit, toujours plus au centre de tout ce que nous faisons. Et certainement, c'est vers cela que Dieu veut orienter toujours plus notre communauté. J'espère que vous percevez cela, que vous désirez cela vous-même, que vous prierez pour cela cette année, tout en engageant vos forces dans ce mouvement-là. D'un point de vue personnel, de nouveau, il est bon, avant de repartir tête baissée dans le boulot, la routine de toute une année d'activités diverses et variées, de faire un point. Dieu est-il réellement au centre de tout ce que je fais? Dieu est-il au centre de mes préoccupations, de mes pensées? Ou bien est-il un à côté bien utile, mais secondaire? Premier indice, Dieu est présent. Là, sa tente, le tabernacle est au milieu du peuple. Deuxièmement, et étonnamment, au milieu de toute cette pression, nous voyons un homme décontracté, à l'aise, tranquille, dans la présence de Dieu. Il rentre, il est accueilli par Dieu, il ne semble pas se poser toutes ces questions à propos de la sainteté de Dieu. Il s'agit de Moïse. Je vous invite à lire avec moi juste un verset, le chapitre 7, verset 89. Le tout dernier verset de ce chapitre. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix lui parler du haut du couvercle placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. C'est pas incroyable? Après tout ce qu'on vient de lire, après cette vision-là, que voilà, celui qui s'approche meurt, mais Moïse, lui, il rentre. Et il entend Dieu lui parler. C'est plutôt positif, hein, il ne meurt pas sur le coup. Il entend Dieu lui parler et il parle à l'Éternel. Il est en relation avec le Seigneur. Il dialogue avec Dieu lui-même. Quelle simplicité dans ces versets, n'est-ce pas? Et lui, Moïse, pouvait entrer librement dans la tente de la rencontre. Il parlait à Dieu, il entendait la voix même de Dieu. Moïse a eu un rôle particulier d'intercesseur tout au long de sa vie pour le peuple de Dieu. Son intercession, elle était vitale pour le peuple. Elle n'a pas empêché cependant un grand nombre de mourir, malgré tout, du fait de la désobéissance de plusieurs. Et Moïse, il n'est qu'une figure, qu'une maquette d'une personne encore plus grande pour intercéder pour nous. Bien sûr, il s'agit de Jésus-Christ. Hébreux 10, 19 nous dit ceci. « Ainsi donc, mes frères, mes sœurs, » il parle des chrétiens ici, nous avons une pleine liberté pour rentrer dans le lieu très saint. Comment? Mais nous, simples chrétiens, sans importance à Cavaillon, nous pouvons entrer dans le lieu très saint, que même les kéatites, il fallait les avertir de ne pas faire n'importe quoi quand ils emballaient, quand ils devaient transporter tous ces éléments qui constituaient le lieu très saint. Mais nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu, comme Moïse était placé à la tête de la maison de Dieu dans l'ancienne alliance, Jésus est à la tête de la maison de la nouvelle alliance. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit. Oui, il faut quand même du respect pour la sainteté de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Mais approchons-nous, si nous avons un cœur droit, si nous désirons connaître ce Dieu saint, approchons-nous avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps, lavé d'une eau pure. Et j'espère que c'est aussi ce que vous désirez cette année, une communion plus intense avec le Seigneur, la possibilité de l'entendre vous parler, la possibilité de lui parler vous-même. Est-ce que vous allez sanctuariser du temps cette année pour le Seigneur? Parce que tout saint et grand est tellement différent de nous que Dieu veut aussi bénir. Dieu veut aussi être proche de nous. Et puisque par Jésus-Christ, l'accès au trône de la grâce nous est grand ouvert, puisque notre impureté a été couverte, lavée même, que nous n'avons plus à craindre de mourir devant Dieu, ne négligeons pas de nous approcher de lui. Qu'est-ce que vous allez mettre en place en 2015 pour cela, pour vous approcher de Dieu comme Moïse, pour parler avec Dieu et l'entendre vous parler? Quand nous faisons ça, vous vous rappelez Moïse, quand il rentrait dans le tabernacle, il y avait son visage qui rayonnait, il était différent quand il ressortait. 2 Corinthiens 3, 18, pour nous motiver dans ce sens-là, nous dit ceci: nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire de gloire en gloire, en progressant toujours plus dans la sainteté. Et juste, merci pour votre patience, un dernier, quelques lignes sur mes notes. Un dernier indice. Si Dieu a fait ça dans le passé, il a voulu demeurer au milieu de son peuple, il a voulu aussi être proche, s'il a voulu se rendre disponible, pas à n'importe quelle condition, mais disponible quand même, réellement, authentiquement, personnellement accessible. Si en Jésus-Christ ce privilège a même été étendu, si le Père a envoyé son Fils tabernaclé au milieu des hommes pécheurs pour venir les sauver de leurs péchés, pour les rendre participants à la sainteté de Dieu, pouvons-nous espérer encore plus à l'avenir? C'est un grand oui de la part de la Bible. Ce que nous expérimentons aujourd'hui à travers de Christ et de l'Esprit Saint trouvera un accomplissement encore plus grand dans la nouvelle création. C'est vers cette terre promise-là que l'Épec est en route. Apocalypse 21, nous lisons ceci: « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée, qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » Voilà le chemin pour un avenir plus ou moins lointain. Personne ne connaît le jour ni l'heure, peut-être en 2015, peut-être beaucoup plus loin. Mais peu importe le moment. Ce qui importe, c'est que nous orientons nos vies en ayant conscience en même temps de la sainteté de Dieu pour 2015 et en même temps de sa volonté d'être proche et de bénir. Et je prie que cela, quand tout au long de cette semaine, vous allez réfléchir, planifier pour 2015, vous aide à prendre des décisions qui vont honorer Dieu tout au long de cette année. Et que ça rejaillisse aussi dans la vie du Seigneur, dans son Église. C'est ma prière. Amen.